Le fils du drapier sait faire largesse des écus de son père. Il a la manière. C'est à s'y méprendre, avec un peu d'indulgence. Le petit plébéien aux beaux yeux n'est jamais vulgaire, et son élégance est devenue proverbiale dans la jeunesse. Proverbiale aussi son inépuisable gaieté, ses plaisanteries qui déchaînent le fou rire. Il est clair que cela l'étourdit, de se savoir admirer pour son esprit, pour ses capes de soie toujours nouvelles, toujours imprévues, pour son art de commander un dîner d'un raffinement à rendre jaloux un prince. Il veut éblouir. Il veut aussi que tout le monde s'amuse. Par les belles nuits de printemps, la table est mise en plein air. On mange sans retenue avec la gloutonnerie de cet âge, car si noble qu'on soit, on a un appétit monstrueux, d'autant plus qu'au logis seigneurial, le malheur des temps impose l'économie. On boit beaucoup et on chante. Sont invitées les plus jolies femmes de la ville, et cela malgré les ordonnances communales qui interdisent à la gent féminine d'assister à ces banquets nocturnes favorables à tous les excès. Sortie de table, la compagnie se répand dans la ville en chantant. Et c'est là le moment de François. Il se distingue par la qualité de sa voix, à la fois véhémente et douce, claire et sonore. Il imite en perfection la langue des troubadours dont il a appris les chansons. Lesquelles ? Car il y a de tout dans ces poésies où triomphe l'amour tantôt comblé, tantôt mystérieusement inassouvi et malheureux. Comment chante-t-il ? Cela, on peut le savoir. Fort heureusement, des sociétés savantes d'Allemagne et d'Italie ont pu sauver de l'oubli les airs qu'on écoutait à l'aube du XIIIe siècle. Les instruments de cette époque ont pour ancêtre les luths, les harpes de Sumer, les chalumeaux venus du désert, les orgues de Byzance. Écouter des Cervantes de Père Vidal qui chantaient du vivant de François, c'est se trouver tout à coup au sein d'un monde inconnu, plus insolite encore que le lointain Moyen-Âge. On croirait entendre un écho du fond d'un orient de songe. Dès les premières notes, le charme de cette musique agit sur l'imagination qu'elle envoûte. Sans correspondre à notre sensibilité, elle nous fait cependant passer d'une mélancolie ensorcelante à une gaieté soudaine, sauvage, scandée par un tambourin comme par les coups de talon d'une danse furieuse. Les voix de fausset tombent subitement dans le grave, s'élevant d'une sorte de buisson de notes grêles. C'est la guitare sarrasine qui miaule, la harpe sumérienne qui jette sa note langoureuse. Difficile à saisir, bien que dite à merveille, des mélopées s'enroulent autour de ces phrases d'une complication délicate. Et voici le psaltérion qui fredonnera pendant qu'une voix claire et pure jaillira de ce murmure d'église. Il y a de tout dans cet art. De la prière pendant quelques secondes, puis une brève poussée d'hystérie. Cela pourrait être barbare. C'est d'un raffinement dont nous avons perdu le secret. Et il y a ceci de plus émouvant, c'est que nous croyons entendre le timbre magique de François d'Assise. Un chalumeau nous ouvre un ciel où s'élève le cri d'un muezzin dans une oasis surgie dans les sables. Non, nous sommes dans les jardins de l'amour, et c'est la tristesse inconsolable du chant de longue attente. Paroles étranges où il est question des amoureux de l'amour, de la dame qu'on aimera sans jamais faillir ni jamais la toucher. Et la voix du jeune homme monte si haut qu'on a l'impression que dans le ciel de la nuit, les étoiles l'écoutent. Il a des moments si singuliers, ce François. Son visage brille de plaisir. Et il voit très bien qu'avec l'échauffement du vin délicieux, on ne tarde pas à s'embraser. N'a-t-il pas tout fait pour cela? Tout à coup, il devient très grave, s'il entend des paroles trop crues, et, prérogative du Dominus, impose d'un regard silence au coupable. Qu'est-ce qui lui prend? Il y a chez lui quelque chose d'incompréhensible. À l'en croire, on ne doit pas manquer de respect aux femmes. Y tiennent-elles seulement? Mais après tout, n'est-ce pas lui-même qui a recommandé à ses compagnons d'inviter leurs belles amies et se priverait-il de les regarder? S'il tient tellement à sa vertu, pourquoi l'expose-t-il à de tels dangers? Mais il a de prodigieuses sautes d'humeur. Personne ne peut faire comme lui le dégoûter.